Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Le pape a passé une nuit tranquille et poursuit sa thérapie à la polyclinique Gemelli de Rome. Telle est la mise à jour faite vendredi 7 mars par la salle de presse du Saint-Siège. Jeudi soir, au cours de la veillée de prière organisée place Saint-Pierre, un court message audio du pape François a été diffusé au début de la récitation du chapelet. Le pape, d'une voix fragile, a remercié pour les prières qui lui sont adressées par les fidèles de par le monde entier. L'année jubilaire se poursuit et l'Église catholique se prépare à célébrer le 5e événement jubilaire qui sera consacré au monde du volontariat les 8 et 9 mars 2025. Et au Rwanda, une cinquantaine de délégués de tous les diocèses se sont réunis du 2 au 6 mars à Mbare pour réfléchir ensemble sur comment devenir de plus en plus une église synodale en mission dans ce pays à partir des orientations proposées par le processus synodal. Nous en parlerons de l'actualité de l'église qui nous conduira aussi au Cameroun et au Tchad. Quant à l'actualité sociopolitique sur le continent, elle nous conduira entre autres au Sénégal et au Soudan et nous conclurons l'édition de notre programme avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine.
À Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Le pape François a passé une nuit tranquille et poursuit son repos ainsi que son traitement à la polyclinique Gemelli de Rome. Telle est la mise à jour faite vendredi 7 mars par la salle de presse du Saint-Siège. La veille, au soir, le dernier bulletin de santé faisait état de conditions cliniques restées stables par rapport aux jours précédents. Dans la soirée du jeudi, au cours de la veillée de prière présidée par le cardinal espagnol Fernandez Artim, pro-préfet de Dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, un enregistrement de la voix du Saint-Père a été diffusé aux fidèles réunis pour prier le chapelet. D'ici, je vous accompagne. Quelques mots au sein de ce court message de François qui a remercié pour les prières qui lui sont adressées. Dans le texte qu'il avait rédigé pour l'Angélus dimanche dernier, François avait écrit se sentir porté par les fidèles. Il a donc tenu à le dire lui-même dans son message diffusé jeudi soir. Jean-Charles Puzzolou.
Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous récitez pour ma santé sur la place. D'ici, je vous accompagne, que Dieu vous bénisse et que la Vierge vous protège. Ce ne sont que quelques mots, mais ce sont les premiers que les fidèles ont pu entendre depuis l'hospitalisation du pape François le 14 février. La voix est fragile, elle laisse transparaître la souffrance qu'il traverse en ce temps d'épreuve. Une épreuve pour lui qui tient à ce que tous les jours, le monde entier soit informé sur l'évolution de la double pneumonie qui l'a conduit à la clinique il y a maintenant 3 semaines et l'a contraint au repos absolu. Une épreuve aussi pour les fidèles à Rome et dans le reste du monde qui se rassemblent et prient Dieu pour qu'il accorde au pape sa bienveillance et la guérison. Dans l'épreuve, François exprime cette proximité par cette phrase courte « D'ici ». Je vous accompagne. Une réciprocité fraternelle et pleine de tendresse en direction des foules qui, par leurs prières, elles aussi, accompagnent le Saint-Père. Ce message du pape aux fidèles a été présenté par le cardinal espagnol Fernandez Artime, qui présidait hier soir la veillée de prière, comme une très belle nouvelle et un beau cadeau.
Merci Jean-Charles. Au Vatican, comme partout dans le monde, nombreuses sont les initiatives de prière pour la guérison du Saint-Père. La prière du chapelet continue chaque soir au Vatican avec la participation d'évêques, prêtres et de nombreux fidèles. Pour la soirée du vendredi, c'est au tour du cardinal Lazzaro Yu Eng-Sik, préfet du dicastère pour le clergé, de présider cette prière sur la place Saint-Pierre. Et toujours en communion avec le pape François, toujours hospitalisé à la polyclinique de Gemelli, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun ont célébré une messe pour son prompt rétablissement. C'était le 3 mars 2025 en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolié à Yaoundé, en présence de plus de 5000 fidèles et de plusieurs autorités administratives. Un retour sur ce moment de prière avec notre correspondante Paul-Valérie Mendogo, une initiative spirituelle saluée par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur José Avelino Betancourt.
La démarche des évêques du Cameroun s'inscrit dans la grande mouvance de prière que les chrétiens et hommes de bonne volonté de par le monde font monter au ciel pour la santé du pape François. Pour les évêques du Cameroun, il s'agit d'un élan de sympathie et d'empathie envers le Saint-Père qui a toujours exprimé sa sollicitude paternelle pour l'Église qui est au Cameroun. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur José Avelino Betancourt, a salué cette initiative.
Je veux renouveler mon grand remerciement à tous les fidèles et tous les Camerounais de bonne volonté qui ont prié pour le Saint-Père, le pape François, dans ce moment difficile, mais qui nous remplit de foi. Nos pères et archevêques et nos pères évêques du Cameroun sont parmi les vraiment les premiers qui se retrouvaient en conférence épiscopale, tous ensemble unis, pour lever une prière extraordinaire pour la santé du Saint-Père, le pape François.
Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, a noté que le pape François, depuis son élection, n'a ménagé aucun effort pour servir l'Église et plaider pour le bien-être de l'humanité. Dans les jours à venir, les évêques espèrent une nette amélioration de la santé du pape François par l'intercession de la Vierge Marie, reine des apôtres, patronne du Cameroun. Paul-Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
L'évêque de Rome a érigé vendredi le nouveau diocèse de Bagamoyo en Tanzanie en démembrant l'archidiocèse métropolitain de Dar es Salaam et le diocèse de Morogoro, le rendant suffragant du siège métropolitain de Dar es Salaam. Il a nommé Monseigneur Stefano Lamek Musomba, jusqu'à présent évêque auxiliaire de Dar es Salaam, comme premier évêque du diocèse nouvellement érigé. Le pape François a également nommé vendredi archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Korogo en Côte d'Ivoire, Monseigneur Armand Koné. Il était jusqu'à présent vicaire délégué du même siège. L'année jubilaire se poursuit et l'Église catholique se prépare à célébrer le cinquième événement jubilaire qui sera consacré au monde du volontariat les 8 et 9 mars 2025. Environ 25 000 participants provenant de plus de 100 pays convergeront vers Rome. La première démarche proposée le samedi 8 mars sera le passage de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le lendemain dimanche 9 mars, ces milliers de pèlerins se réuniront place Saint-Pierre pour une messe de clôture qui sera présidée par le cardinal Michael Czerny, préfet du Dicastère, pour le service du développement humain intégral. Et pour nos auditeurs sur les continents africains, vous aurez la possibilité de suivre le déroulement de cette messe sur la fréquence d'ondes courtes 15 565 kHz, mais aussi via YouTube et Facebook. Une cinquantaine de délégués, évêques, prêtres, religieux et religieuses, laïques de tous les diocèses du Rwanda, se sont réunis du 2 au 6 mars à Mbare pour réfléchir ensemble sur comment devenir de plus en plus une église synodale en mission au Rwanda à partir des orientations proposées par le processus synodal. Acceptant l'invitation du pape François, Mgr Edouard Sinayobe, évêque de Tsiangungu et membre de l'Assemblée, a organisé cette école de la synodalité afin que les participants puissent approfondir, à partir du document final, certains thèmes clés qui ont émergé dans le processus synodal et expérimenter le style synodal d'écoute et de discernement. Plus de détails avec Marie-Josée Mwando.
Le processus synodal dans nos diocèses a été accueilli et vécu comme un kairos, un temps de grâce et de renouveau. L'Église du Christ qui est au Rwanda a soif de communion et d'unité et souhaite vraiment marcher ensemble dans un esprit de soin et d'attention envers tous, a déclaré Monseigneur Sinayobe. La rencontre s'est déroulée en présence du père Giacomo Costa, consulteur de la secrétaire générale du synode, qui a facilité les travaux et qui a proposé quelques interventions visant à former les participants au style synodal. Dans un message adressé aux participants, le cardinal Mario Grech a rappelé pour sa part que le synode sur la synodalité n'est pas terminé et qu'en bien des égards, il entre maintenant dans sa phase principale. Le document final a été remis ou, dans un certain sens, a été restitué à toutes les églises locales, précisément pour qu'ils puissent guider la troisième phase, celle de la mise en œuvre ou de la réception, a-t-il souligné. Saluant enfin le caractère authentiquement ecclésial de l'initiative des évêques rwandais, le cardinal Grech a rappelé que la synodalité, avant d'être une doctrine, est un style, une mentalité, une culture, un style d'église dans lequel le ministère épiscopal lui-même est compris et exerce ensemble avec les innombrables ministères et charismes que Dieu confère à son église pour l'évangélisation du monde.
Et à l'occasion du temps de Ramadan musulman qui coïncide avec le temps de carême pour les chrétiens catholiques, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Mgr Edmond Djitangar, a adressé un message à la communauté musulmane du Tchad. Le prélat qui a invité à la pratique sincère de la prière, du jeûne, de l'aumône et de la miséricorde pour un renouvellement intérieur. Les détails avec Edouard Takadji.
Au nom de la communauté catholique, je viens par la présente adresser à toute la communauté islamique du Tchad nos vœux les meilleurs pour le mois du Ramadan. Et si le Tout-Puissant fait coïncider ces deux temps forts de nos confessions religieuses respectives, c'est pour nous adresser un message écrit l'archevêque métropolitain de N'Djamena. Ces deux temps forts pour l'ordinaire du lieu, c'est celui de chercher à rester toujours proches les uns des autres dans l'approfondissement de notre foi par la prière et la méditation des textes sacrés. C'est par la pratique sincère de la prière, du jeûne, de l'aumône et de la miséricorde que nous pourrons nous renouveler et renouveler nos pensées les uns sur les autres, a-t-il souligné. Puisse le miséricordieux nous bénir et consolider les efforts de tous les croyants qui œuvrent pour faire de notre pays une terre de fraternité et de promotion des valeurs sociales communes aux différentes confessions religieuses, ajoute Mgr Edmond Djitangar dans cette lettre. Il souhaite enfin bon temps de Ramadan à toute la communauté islamique du Tchad. Edouard Takadji N'Djamena pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La France a restitué vendredi plusieurs installations utilisées par l'armée française au Sénégal, les premières transférées dans le cadre, d'ici la fin de l'année, de son retrait militaire de ce pays ouest africain, où elle était militairement présente depuis 1960, a annoncé vendredi l'ambassade de France. La partie française a remis à la disposition de la partie sénégalaise les installations et logements des quartiers Maréchal et Saint-Exupéry vendredi 7 mars 2025, a indiqué un communiqué de l'ambassade à Dakar. D'autres emprises seront restituées selon le calendrier conjointement agréé, a également indiqué le communiqué. Jeudi 6 mars, un troisième cadre de l'opposition a été arrêté au Soudan du Sud. Cette répression menace le fragile accord de paix qui a mis fin à la guerre civile il y a 7 ans. Suivons les explications d'Augustine Passilli.
Après l'arrestation mardi du numéro 2 de l'armée sud-soudanaise, puis mercredi du ministre du Pétrole, c'est le ministre de la Paix, Stephen Park-Kyol, qui a à son tour été interpellé hier. Ces trois hauts responsables de la plus jeune nation du monde ont en commun d'être des proches du premier vice-président Riek Machar. Ce dernier a fait la paix avec le président Salva Kiir en 2018, après 5 années de guerre civile. Les récentes arrestations constituent une violation flagrante de l'accord de paix qui conduira probablement à son effondrement final, prévient un député de l'opposition. Les trois dirigeants qui viennent d'être emprisonnés sont suspectés d'être liés aux affrontements qui ont éclaté mi-février dans le comté de Nassir, au nord-est du pays, entre les forces armées et la White Army, une milice alliée de l'opposition. Ces arrestations vont aggraver le manque de confiance entre le gouvernement et l'opposition, craint l'évêque épiscopal Moses Dengbol, qui participe aux négociations avec les groupes armés qui n'ont pas encore signé le traité de paix. Cet accord déjà très fragile n'a toujours pas permis d'organiser des élections qui ont été une nouvelle fois décalées en septembre dernier. Augustine Passy pour Radio Vatican.
Les députés togolais ont adopté jeudi à la majorité absolue un projet de loi autorisant une nouvelle prolongation de l'état d'urgence sécuritaire pour 1 an dans l'extrême nord du pays, en proie à des attaques djihadistes. Décrété en juin 2022 par le président Faure Gnassingbé, l'état d'urgence sécuritaire a été déjà prorogé 3 fois dans cette région. Cette nouvelle prolongation prendra effet à compter du 13 mars. Notre devoir est d'offrir à nos forces de défense et de sécurité tous les moyens légaux nécessaires pour assurer efficacement la protection de nos concitoyens et préserver ainsi l'intégrité de notre territoire national, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Sevon Tepe Kodjo Adetse. Refermons à présent cette édition avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Parole à Fabrice Baguendekere.
Commençons par cet événement historique. Le Japon commémore les 80 ans du raid aérien américain meurtrier sur Hiroshima et Nagasaki. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vague après vague, les bombardiers avaient alargué des bombes incendiaires, déclenchant un immense brasier qui avait ravagé 4145 hectares de la ville et réduisant ses habitants en cendres, et la capitale en un vaste champ de ruines. C'est dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, 5 mois avant les bombardements atomiques. Au moins 80 000 personnes et probablement plus de 100 000 selon des historiens japonais et américains auraient alors perdu la vie. De violents affrontements ont éclaté dans le nord-ouest de la Syrie entre des membres des forces de sécurité et des combattants fidèles au président déchu Bachar al-Assad. Plus de 70 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées ou capturées, ce qui a suscité l'indignation de plusieurs Syriens qui accusent la nouvelle administration d'adopter la même approche que le régime Assad en visant et tuant des civils. Depuis la Jordanie, Mohamed Erami.
Le gouvernement syrien a déployé des centaines de combattants dans les villes de Latakia, Tartous et Homs pour traquer les assaillants, selon le directeur de la sécurité générale du ministère de l'Intérieur syrien, Ali El-Mohsen. L'usage d'armes lourdes a suscité l'indignation des Syriens qui accusent la nouvelle administration d'adopter la même approche que le régime Assad en visant et tuant des civils, nous ont confié plusieurs Syriens contactés par téléphone. Les villes côtières de Tartous et Latakia étaient parmi les bastions du régime syrien en raison de considérations confessionnelles, la majorité de leur population étant alaouite. Les nouvelles autorités viennent d'annoncer un couvre-feu dans les villes de Latakia et Tartous à partir de minuit et jusqu'au lendemain matin.
Les 27 chefs d'État et gouvernement de l'Union européenne étaient réunis hier à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à la défense européenne et à l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. À l'issue de celui-ci, le principe d'un réarmement européen a été validé par tous, alors qu'au même moment Donald Trump remettait en cause l'engagement américain au sein de l'OTAN. La correspondance de Jean-Jacques Herry.
À l'unanimité, les 27 ont donné leur aval au plan de 800 milliards d'euros présenté mardi dernier par la Commission européenne, incluant notamment le prêt par Bruxelles de 150 milliards aux États membres. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affichait hier soir sa volonté d'accélérer après ce feu vert.
Avec le soutien des dirigeants, la Commission présentera avant le prochain sommet le sommet régulier les 20 et 21 mars pour expliquer les propositions législatives correspondantes. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle, mais d'une mesure juste pour des temps exceptionnels.
Les secteurs prioritaires d'investissement ont été fixés, l'artillerie, les capacités de frappe en profondeur longue distance, la production de missiles et de munitions, ou encore les drones et les systèmes anti-drones. Quant aux conclusions sur l'Ukraine elle-même, seuls 26 des États membres sur 27 les ont soutenues. La Hongrie du Premier ministre Viktor Orban, très proche de Moscou, n'a pas signé ce texte qui appelle à des garanties de sécurité durables et solides pour le règlement du conflit. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Diminution progressive du niveau de tension dans les conflits douaniers opposant les États-Unis à ses voisins les plus proches, le Mexique et le Canada. Donald Trump a repoussé sa décision de hausser de 25% les droits de douane sur les produits canadiens et mexicains et même promis que certaines taxes seront baissées. Un répit pour le Mexique. À Mexico, Diego Calma.
C'est un nouveau sursis pour le Mexique. Hier, Donald Trump a fait machine arrière dans son offensive commerciale contre son principal partenaire, le Mexique. Il a annoncé sur son réseau Truth Social que l'essentiel des droits de douane sur les importations mexicaines était suspendu, et ce jusqu'au 2 avril. Un nouveau rétropédalage après le premier sursis qu'il avait accordé à son voisin du Sud il y a déjà un mois. Trump avait initialement annoncé des droits de douane en accusant le Mexique de ne pas assez lutter contre le trafic de drogue et de migrants sans papier vers son territoire. Le Mexique sort donc bénéficier de ces désaccords commerciaux. Donald Trump a annoncé prendre cette décision par égard pour son homologue Claudia Sheinbaum, avec laquelle il dit avoir une très bonne relation. Au Mexique, le patronat comme l'opposition célèbrent les négociations menées par la présidente. Claudia Sheinbaum a d'ailleurs annoncé la tenue d'un grand meeting dimanche pour célébrer l'annulation de ses frais de douane et raffermir le sentiment patriotique des Mexicains qui soutiennent leur présidente à 80%. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Très chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Nous vous disons un grand merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos programmes.